Maurice Leblanc, sous le lit. On tenait le comte de Francourt pour brave. D'abord, son nom évoquait une très longue suite d'anciens vaillants et d'exploits presque prodigieux. Puis, personnellement, il avait acquis une réputation d'audace et même de témérité, basée sur des faits incontestables. Entre autres, ses prouesses pendant la guerre comme capitaine de franc-tireur et son heureux duel avec Raymond, un des premiers escrimeurs de Paris. Il portait beau, malgré ses 60 ans, son absolue calvitie. Une couronne de cheveux blancs, une grande grave moustache tombante, un grand corps sec, des gestes souples et décidés, lui donnaient un air de force et même de distinction. Il fréquentait assidûment des salles d'armes. On le craignait. Il produisait une impression d'un homme qui ne redoute rien au monde et pour qui le danger ne compte pas. On les respecte, ces gens-là. Pourtant, chaque soir, quand il rentrait, le comte de Francourt regardait sous son lit. Cette lâcheté, il tentait de l'excuser par le genre d'existence que lui avait imposé le hasard. Au sortir du collège, on le mariait. Il adora sa femme, en fut sincèrement aimé, et ils formèrent un de ces heureux couples à qui suffisent les joies de la vie intime. L'immense et triste hôtel de la maison que Francourt occupait rue de Varenne, la comtesse qui l'emplissait de son rire et de sa grâce, de son unique présence. Or, après 30 ans de mariage, elle mourut. Et dès la première nuit, il eut peur. Il veillait le corps. Son œil sec suivait les larmes pures des deux cierges. Il ne pouvait pleurer, lui, l'âme crispée de douleur, les lèvres rebelles aux prières qui consolent. Il resta des heures à genoux. Et soudain, un souffle glacial passa et, sans d'autre raison apparente que ce souffle, un des cierges s'éteignit. Alors, son chagrin s'apaisa. Quelque chose de plus puissant l'étouffait. L'effroi, un abominable effroi. Et devant le cadavre de sa femme, il ne souffrit plus. Il avait peur. De quoi? De la mort qui planait, du vent, de la pluie. Qu'en savait-il? Mais il avait peur. Le lendemain, le supplice de l'enterrement achevé, il erra comme un misérable. Il fallait revenir, cependant, alors il s'y résigna. Et dans l'irrémédiable silence de l'hôtel, il comprit sa peur de la veille. Il prévit des pleurs, des peurs aussi absurdes. Il était seul. Pour la première fois, il traversait seul l'enfilade sinistre des salons. Pour la première fois, il habitait seul dans la chambre conjugale. 30 années, il avait entendu respirer sa femme, auprès de lui, sentit son contact, épié, avant de s'endormir, son assoupissement définitif. Et maintenant, il était seul, tout seul. Et il s'imaginait distinguer des craquements confus, le bruit d'êtres cachés qui surveillaient son approche, prêts à s'étendre à ce côté, à le toucher de leurs mains froides. Insensiblement, sa peur le conduisit à des précautions ridicules. Il se munit d'un revolver. Une lanterne allumée l'attendait. Du bout de sa canne, il tâtait le gonflement inquiétant des draperies du vestibule. Il montait l'escalier à pas de loup. Il ouvrait la porte de sa chambre prudemment, avançait la tête, puis entrait et fermait immédiatement le verrou. À droite se trouvait son lit, à gauche une grande glace qui descendait jusqu'au parquet. Il se jetait à terre d'un coup et longtemps il se vautrait sur le ventre, son crâne à moitié englouti par le meuble, les jambes écarquillées. Ensuite il fouillait tous les coins, bousculait les fauteuils, interrogeant les rideaux et les armoires. Ce fut la torture de sa vieillesse. En plein jour, ou dehors, son énergie ne se démentait point. Mais la nuit, l'ennemi le guettait au seuil de l'hôtel. L'étreignant aussitôt à la gorge, elle le rendait faible, ce poltron comme un enfant. Nulle révolte ne prévalait contre l'affaissement de ses nerfs et la débâcle de son cerveau. Ce soir-là, de vieux camarades le forcèrent à souper. Il but beaucoup de chartreuse, de cognac, de cumel, espérant ainsi se donner du courage pour l'heure redoutable. Il sortit du cabaret, l'esprit trouble, la démarche incertaine. Chez lui, il se défit de son paletot et saisit la lanterne en sifflotant, sans songer à ses terreurs ordinaires. À l'aide de la rampe, il gravit les deux escaliers et deux étages. La porte de la chambre était entrebâillée. Il y pénétra, toujours insouciant, mais entre la glace et le lit, il s'arrêta par habitude, déposa sa lanterne et se mit à genoux et s'étendit tout de son long. Un cri s'étrangla dans sa gorge. Lui, là, en face de lui, juste à la portée de sa main, il vit un être s'aplatissant. Le corps se devinait dans l'ombre. Et cet être le regardait avec des yeux énormes, fantastiques, exorbités. Des yeux blancs avec des paupières invisibles. Un rictus creusait les coins de sa bouche. Son front fuyait, démesuré, et tout autour des oreilles et des cheveux se dressaient. Et toute cette tête clamait une épouvante comme la tête d'un décapité. Tout de suite, le comte eut l'idée de courir vers la fenêtre et d'appeler ses gens. Imperceptiblement, il se souleva sur ses poignets. Horreur ! L'homme aussi fit le même geste et un mouvement. Monsieur de Francourt retomba en bloc L'autre également, et à la même seconde, ils ne bougèrent plus, paralysés. Et ils se contemplaient tous les deux, indéfiniment, les yeux dans les yeux. Cela dura 10, 20 minutes. Puis le vieillard se sentit comme une goutte de sueur roulait de son crâne, traversait ses rides, descendait, et tandis qu'il sentait, il vit sur le crâne de l'autre une pareille goutte de sueur qui suivait le même chemin. Les deux gouttes perdues dans l'épaisseur des sourcils, de son sourcil gauche à lui et du sourcil droit de l'autre. Il constatait cette différence quand il avisa chez l'inconnu une agitation fébrile de la mâchoire. Le malheureux, ses dents claquaient, et au même moment, il remarqua que ses dents à lui aussi s'entrechoquaient avec une rapidité vertigineuse. Son effroi redoubla. Il eut peur de sa propre peur, et il eut peur aussi de cet autre, de l'atroce peur dont il était témoin. Il se mit à trembler de tous ses membres. Son corps ressentait comme un objet ébranlé par une trépidation. Son corps tressautait. Derrière lui, il devinait la danse éperdue de ses jambes et il s'aperçut que l'homme tressaillait de la même façon mystérieuse. Dans le silence, il y eut un bruit bizarre de pieds qui tapotaient le parquet. Et de dents surtout, de dents qui résonnaient comme un jeu d'osselet, secoués sans répit les uns contre les autres. À la fin, ce vacarme qu'il distinguait nettement lui devint intolérable. Il fallait le rompre à tout prix. Des paroles fortes, peut-être, l'aboliraient, comme certains mots détruisent les sortilèges. Il ouvrit la bouche, et l'autre l'ouvrit comme lui. Une terreur le glaça. Qu'allait dire l'autre? Mais rien ne sortit de ses lèvres. Il articula tout haut, « Qui êtes-vous ? » Et au même instant, l'autre proféra la même question, de telle manière que les syllabes se confondirent et se fondèrent en une unique série de sons. Et tous les deux, ils eurent l'air d'attendre la réponse. Et leurs yeux s'interrogeaient anxieusement. Un projet subit heurta le vieillard. Il se souvenait d'un revolver enfoui dans les basques de son habit. Il ne trembla point. Et doucement, furtivement, il glissa ses mains derrière en arrière. Vision infernale. L'autre exécutait un geste identique. Il s'arrêta, l'autre de même. Il le reprit, l'autre également. Et ils continuèrent leur manège sans s'interrompre, les yeux immuablement fixés, des yeux pleins d'une haine féroce. Les mains saisirent les pistolets, les bras revinrent en avant, Le comte aperçut en face de lui l'arme qui luisait, son cœur battit, et il discernait un bruit sourd et régulier. Le cœur de l'autre battait aussi. Des secondes passèrent solennelles. Qui tirerait le premier? Très vite, les deux bras se détendirent. Un seul coup partit, une seule clarté jaillit. Le comte tomba. Au matin, quand M. de Francourt sortit de son évanouissement, il vit dans la glace un trou net voilé de fêlures. Alors il se rappela sa débauche de la veille au cabaret. Et il comprit qu'en s'agenouillant, il s'était tourné vers son miroir et non pas vers son lit. Il avait eu peur de son propre reflet.